Ici, quand on est dehors depuis 10 minutes, on voit la Voie lactée merveilleusement, presque aussi bien que si on était dans un désert très très loin des sources lumineuses. Donc on a vraiment une énorme différence de qualité de ciel. Le fait d'être sous les étoiles et de n'avoir aucune lumière autour de soi, ça c'est vraiment des moments très très puissants, très forts émotionnellement, qui amènent à réfléchir sur notre position un peu dans l'univers et sur la place qu'on a sur Terre.
Le photographe Guillaume Canat dans le parc national des Cévennes qui a reçu ce parc, le label mondial Réserve de ciel étoilé. Regardez le ciel et les étoiles, pourquoi sommes-nous en panne d'émerveillement? Demain, à l'appel d'agir pour l'environnement notamment, se tiendra la 11e édition du Jour de la Nuit, une opération qui vise à sensibiliser à la pollution lumineuse. Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, donc, un monde sans nuit, est-ce un monde sans vie? On en parle avec nos invités, le géographe Samuel Chaléa, chercheur invité au sein du laboratoire Géode comme géographie de l'environnement. Il publie ce mois-ci Sauver la nuit aux éditions Premier Parallèle. Bonjour à vous.
Bonjour Olivier.
Merci d'être avec nous. Et Anne-Marie Ducroux, actuellement directrice de l'Association nationale pour la protection du ciel nocturne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être avec nous. Comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir? C'est un programme en trois temps que vous développez dans cet essai, Samuel Chaléa. C'est d'ailleurs le sous-titre de votre livre. Mais d'abord, quand on parle tête dans les étoiles, on pense tous directement, immédiatement, au Petit Prince, Saint-Exupéry, ayant fait lever des yeux au ciel à des générations d'enfants et de plus grands, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants, disait le businessman. C'est ça, une étoile, Samuel Chaléa.
C'est ça, une étoile. Je pense qu'il faut vraiment pas oublier la capacité d'émerveillement que peut nous apporter un ciel nocturne préservé, un ciel nocturne protégé. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai tenu à mettre en avant dans cet ouvrage, c'est cette expérience de nature, cette expérience d'obscurité, et puis donner des clés au lecteur pour comprendre ce nouveau problème qui, pour nous, initiés, spécialistes du sujet, paraît normal, enfin c'est normal qu'on s'y intéresse, mais dans la tête des gens, dans la tête de tout un chacun, l'éclairage artificiel c'est le progrès, c'est le bien, comment remettre ça en cause en disant que ça peut être aussi une pollution.
Vous vous souvenez l'un comme l'autre de votre première fois à regarder le ciel, à observer les étoiles, Anne-Marie Ducroux, à y avoir été particulièrement attentive?
Oui, mais effectivement, comme nous l'avons constaté et comme les créateurs de l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne l'ont fait, ils ont été alertés, d'abord émerveillés par l'observation du ciel, puis alertés par le fait qu'ils pouvaient de moins en moins l'observer puisqu'il y a ces halos lumineux qui nous empêchent de regarder à l'œil nu et à côté de chez soi, c'est-à-dire en gros, sans être obligé d'aller dans le désert du Chili ou d'acquérir des appareils très sophistiqués, coûteux, pour pouvoir observer cette beauté naturelle.
Le désert du Chili, ou en tout cas le Chili où Patricio Guzman avait réalisé son très beau Nostalgie de la nuit. Des étoiles qui seront peut-être bientôt concurrencées par les milliers de satellites que Elon Musk entend faire graviter autour de la tête Terre et de la tête peut-être aussi, écrivez-vous Samuel Chaléa, parce que le ciel reste ou est de plus en plus un lieu convoité par le ciel, des intérêts différents de ceux des rêveurs.
Voilà, on a connu la conquête spatiale qui avait des liens avec les complexes militaro-industriels dans les années 60. Et puis aujourd'hui, cette envie de conquérir le ciel comme un nouveau champ de développement pour les technologies reste prégnante, notamment avec les velléités de déploiement de l'Internet mondial. Je donne dans le livre l'exemple d'Elon Musk qui veut déployer une constellation de 12 000 satellites artificiels. Donc ça, c'est aussi un nouveau problème auquel vont avoir à faire face les associations de défense de l'environnement nocturne et du ciel étoilé. Je pense à l'IDEA, je pense bien sûr à la NPCEN. Cette nouvelle forme de pollution lumineuse, parce que ces satellites renvoient un peu de lumière solaire, donc ils font des petits points brillants dans le ciel qui se déplacent. Donc une pollution lumineuse qui ne viendra plus de la Terre cette fois-ci, mais du ciel directement.
Mais on peut dire pourquoi, au fond, quand on lève les yeux au ciel la nuit, à Paris, à Bordeaux, à Tokyo ou ailleurs, on ne voit plus les étoiles. On a le sentiment que c'est beaucoup à cause de la pollution tout court, celle aux particules fines qui sortiraient des pots d'échappement. Ce n'est pas uniquement ça.
Non, parce que en fait, la pollution lumineuse, elle est d'abord liée à une quantité de lumière émise, une quantité de lumière artificielle émise la nuit. Et nous avons par exemple chiffré que en 20 ans, nous avons émis 94% de lumière en plus seulement à l'origine de l'éclairage public. Donc en fait, si on ajoute à ça toutes les autres sources lumineuses qui contribuent toutes à la pollution lumineuse, c'est-à-dire les enseignes, les publicités lumineuses, les parkings éclairés toute la nuit, les façades illuminées, etc., tous ces éléments contribuent souvent par la qualité de l'éclairage et par la quantité d'éclairage à ce qu'on appelle ces halos lumineux qui perturbent cette observation du ciel et qui perturbent les organismes vivants.
Samuel Chaléa, comment on peut quantifier, mesurer l'appauvrissement du regard et de notre relation au ciel?
Alors, on a différentes méthodologies aujourd'hui. La première méthodologie a été d'utiliser déjà des modèles de prévision de la qualité du ciel étoilé en fonction des tailles des villes, de la population des villes. Parce qu'en fait, le nombre de lampadaires, de luminaires dans une ville est fortement corrélé à son poids de population. Donc ça a été les premières formes de modélisation dans les années 1970. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'imagerie satellitaire. De plus en plus, on cherche à quantifier cette pollution niveau du sol, parce que la biodiversité elle est souvent au niveau du sol, donc la qualité du ciel étoilé ne suffit pas comme indicateur. C'en est un, mais il ne suffit pas, donc il faut mesurer un peu autrement, et là les écologues prennent souvent le relais.
Ce n'est que quand il fait nuit que les étoiles brillent, on prête ces mots à Churchill. On entend bien avec vous deux depuis le début de cette discussion qu'il y a des menaces importantes qui pèsent aujourd'hui sur cette nuit et les étoiles qui auparavant en tout cas y brillaient. Pourquoi le ciel est noir? C'est peut-être la première question à se poser. L'astrophysicien Hubert Reeves y répond.
Pourquoi est-ce que, sachant qu'il y a des étoiles dans tous les coins, le ciel ne nous paraît pas éblouissant de lumière? Puisque partout où vous regardez, il y a une étoile. Nous avons des étoiles. Les étoiles déversent de la lumière continuellement dans le ciel. Si le nombre d'étoiles est infini, la quantité de lumière devrait être infinie. Si elle n'est pas infinie, c'est peut-être simplement parce que ça ne fait pas très longtemps que les étoiles existent. Si l'univers existait depuis toujours, le ciel serait plein de lumière. Donc, le fait que le ciel n'est pas plein de lumière nous indique que les étoiles n'existent pas depuis toujours.
Pourquoi l'obscurité est-elle nécessaire? Elle l'est peut-être d'abord à la connaissance, Samuel Chaléa.
Oui, je pense que voilà, il faut pas oublier l'astronomie est peut-être une des mères de toutes les autres sciences. Voilà, le lien entre les astronomes et les philosophes dans l'Antiquité est bien connu. Et Hubert Reeves en a été le porte-drapeau de ce. Le ciel étoilé permet de questionner notre place dans l'univers et permet de ne pas avoir cette vision anthropocentrée qui peut rapidement dériver vers une vision égocentrée de la place de l'homme dans l'univers. Voilà, il y a un ailleurs, il y a d'autre part, et il y a des questionnements scientifiques autour de tout ça, et puis des questionnements philosophiques, religieux, des apports en termes du point de vue poétique, littéraire, etc., etc.
Anne-Marie Ducroux, les premiers à avoir alerté sur cette crise du ciel, ce sont justement les astronomes qui virent la fenêtre donnant sur le ciel nocturne se refermer, comme vous l'écrivez, Samuel Chaléa. À quand remonte cette prise de conscience un peu collective sur l'importance et la nécessité, notre besoin de nuit?
Elle a plusieurs décennies déjà, mais pour ce qui concerne la NPSEN en particulier, ce sont bien justement des astronomes qui ont lancé cette alerte, donc qui étaient attentifs à cette qualité du ciel et aux finalités, aux intérêts de l'observation. En revanche, nous avons très largement étendu l'objet de l'association à d'autres intérêts beaucoup plus généraux, puisque nous traitons de tous les aspects, de tous les impacts de la pollution lumineuse. Donc ça va des impacts sur le vivant, la biodiversité, mais aussi sur les humains, sommeil, santé, vision, de tous les impacts en émissions de carbone. C'est un sujet, vous venez de recevoir un climatologue, c'est un sujet prégnant pour les années à venir, très très important. Il y a derrière tout ça des budgets publics, de la consommation d'énergie. Ce sont tout ça les effets de la pollution lumineuse, et nous avons choisi d'avoir une approche globale de cette question, parce que seule l'approche globale nous paraît permettre des choix pertinents. On a trop souvent, en fait, soit traité la question que de manière astronomique ou que de manière énergétique, pour prendre cet exemple, et nous pensons que quand on segmente cette question, en fait, on ne fait pas des choix d'éclairage pertinents en oubliant complètement des pans, et voire même en faisant des choix contradictoires avec certains enjeux.
Ceux qui font ces choix d'éclairage, ce sont les pouvoirs publics aujourd'hui qui ont aussi cette responsabilité. Quand est-ce que justement cette question est sortie du cercle professionnel, de celui des sachants et des associations à la sphère publique? Quand est-ce que cette question est entrée dans le débat public?
Alors nous avons vraiment contribué à le mettre à l'agenda public de deux manières, en travaillant sur le terrain, en faisant de la sensibilisation au plus près des équipes municipales, des citoyens, des acteurs territoriaux, parce que ces enjeux et les impacts dont je parlais sont très très méconnus. Bon, maintenant il y a une prise de conscience qui s'accélère, et la deuxième chose que nous avons contribué à faire, c'est vraiment de travailler à un niveau national en portant un plaidoyer, ce qui nous a permis de faire rentrer la reconnaissance des nuisances lumineuses dans 4 lois et plusieurs réglementations. Ce corpus institutionnel n'existait pas. Donc en fait, ces deux actions conjuguées, eh bien, ont permis de mettre à l'agenda public, aux agendas publics, en fait, aux deux niveaux, territoriaux, locaux et nationaux.
Voire internationaux,
bien sûr, puisqu'on est connecté avec une actualité internationale.
Samuel Chaléa.
Oui, c'est très très intéressant cet élargissement de la coalition d'acteurs, voilà, qui part du traitement, enfin de la saisie d'un problème par des acteurs spécifiques qui s'occupent de leur ciel étoilé, qui a été souvent vu comme la défense d'un pré carré. Et puis le champ de savoir scientifique s'élargissant avec les travaux des écologues, les travaux des médecins, et puis la volonté de sortir de la seule préoccupation du ciel étoilé. Et ben on voit que la coalition d'acteurs s'élargit, et c'est ça qui permet au problème d'avoir été mis à l'agenda politique. Parce que si ça n'était resté qu'un problème d'astronome amateur, les élus auraient continué à répondre, mais enfin, on ne va pas refaire l'éclairage urbain d'une ville de 300 000 habitants pour une centaine d'adhérents d'un club d'astronomie, par exemple. Mais ça devient un problème environnemental de portée globale, et on le voit aujourd'hui même dans l'imaginaire de cette pollution lumineuse, parce que l'image de la Terre vue de nuit, elle est souvent récupérée, mobilisée pour illustrer la notion d'anthropocène. Donc voilà, elle illustre parfaitement l'ère de l'homme, l'âge de l'homme, et sa portée globale.
Mais là, on est déjà dans des logiques d'action. Vous nous invitez d'abord, Samuel Chaléa, à observer quelle est la définition officielle retenue, acceptée aujourd'hui de la pollution lumineuse.
Alors, il n'y a pas de définition officielle. Par contre, il y a un ensemble de définitions qui coexistent, qui cohabitent. Et dans toutes ces définitions, on retrouve l'idée de la perturbation. De la perturbation de l'alternance naturelle du jour et de la nuit, des cycles de luminosité naturelle, et la perturbation de besoin d'obscurité. En fait, moi, je rentre par la notion de besoin, qui est très intéressante, parce qu'un besoin, il est exprimé, il est porté par des acteurs. Donc là, il faut vraiment rendre hommage à l'action de la NPCEN et puis des membres locaux de cette association, par exemple, et puis de plein d'autres associations environnementales, parce que ce sont eux qui ont porté sur la place publique ces besoins. Des besoins d'ordre socioculturel, des besoins d'ordre écologique pour la faune, la flore, et des besoins d'ordre sanitaire pour notre santé.
Donc qui dit perturbation dit que l'on a dévié de la norme, ou en tout cas d'un besoin reconnu, établi comme tel, et qu'on peut, et ce serait le contraire de la perturbation, repenser aussi nos méthodes et nos actions aujourd'hui en direction de la préservation de ce qui est essentiel aujourd'hui. Est-ce que l'obscurité peut être considérée comme une ressource pour le vivant que vous évoquiez à l'instant, Anne-Marie Ducroux?
En tout cas, c'est essentiel à son fonctionnement, et quelque part, c'est bien ce que nous avons pointé, c'est qu'en fait, l'éclairage pendant des décennies a été conçu, fabriqué, réalisé, installé uniquement pour les individus, sans aucune préoccupation des effets sur l'environnement.
Exemple.
Or, le vivant, si vous voulez, n'importe quel être vivant, dont nous, a une horloge biologique qui répond à des besoins physiologiques. Si votre cycle naturel pour un humain, qui est à peu près de 24 heures, ce qu'on appelle un rythme circadien, est perturbé par la lumière, et c'est justement le plus puissant synchronisateur, la lumière, eh bien votre rythme va être complètement altéré, votre capacité d'endormissement par exemple le soir est modifiée, puisque vous n'avez pas la production d'hormones, la mélatonine, qui vous permet cet endormissement. Si vous atteignez toutes les nuits à votre qualité de sommeil et à votre quantité de sommeil en ne dormant pas, par exemple, dans un milieu obscur ou en restreignant votre capacité de sommeil en quantité, eh bien, les fonctions physiologiques animées pour votre santé pendant votre sommeil vont forcément être altérées, c'est-à-dire des réductions des défenses immunitaires, production hormonale, régulation de l'humeur, etc. Donc, on sait que cette perturbation a des conséquences réelles à terme sur la santé humaine.
Ça, c'est des dommages engendrés par le trop-plein de lumière ou par le manque de nuit
Les deux. Parce qu'en fait, nous, on reçoit tous les jours des mails de personnes qui se plaignent de lumière intrusive qui viennent d'une enseigne, d'un éclairage d'un bâtiment, d'un éclairage public, qui rentrent dans les pièces de repos, qui rentrent dans les salles à manger, dans les jardins, etc. et qui perturbent par les effets induits auxquels personne n'avait jamais réfléchi, qui perturbent tout ce cycle du vivant.
Parce qu'on nous comprend. Oui, on met beaucoup en avant l'importance de la lumière à travers la luminothérapie aussi, de notre besoin de lumière, beaucoup moins de notre besoin d'obscurité.
Moi, je dirais que l'éclairage a été réfléchi par des gens qui font de la physique, de la photométrie, donc des choses, des sciences dures, mais très peu par de la biologie et de l'écologie. Donc en fait, ce que nous, on a vraiment apporté à cette réflexion, c'est d'apporter un autre angle de vue sur les effets de la lumière. Et c'est confirmé par toutes les études scientifiques internationales portant sur la biodiversité et sur la chronobiologie, par exemple.
Samuel Jalea.
Je pense qu'il faut prendre garde de pas trop juger durement a posteriori, maintenant qu'on a la connaissance scientifique sur les effets négatifs de l'éclairage artificiel nocturne, des choix qui ont été faits et des pratiques professionnelles qui sont ancrées. Donc forcément, ça prend du temps à changer. Et puis on est tous pris dans des dissonances cognitives très fortes. Hein. On voudrait moins de lumière, mais en même temps on veut la sécurisation de la ville nocturne, on veut pouvoir se balader dans une ville qui est bien mise en valeur par la lumière artificielle. Et puis on emmène, nous-mêmes, jusque sous notre couette, jusque dans notre chambre, nos écrans de smartphone, nos tablettes, qui génèrent 20 à 30 lux et qui inhibent effectivement la sécrétion de mélatonine, qui inhibe les derniers résultats de mon collègue Claude Gonfier à l'Inserm, montre qu'avec des niveaux de luminosité tels, on inhibe 10 à 50% de la production de la mélatonine juste avant l'endormissement, donc là où c'est capital, fondamental pour notre bonne santé.
Mais vous en revenez aussi à toutes ces dimensions à la fois socio-culturelles, écologiques et sanitaires de la nuit et de notre besoin d'obscurité, en vous référant notamment à l'histoire de la nuit d'Alain Cabantou, sur cette peur du noir qui peut nous préoccuper, qui peut nous occuper aussi, et l'inversion des jeux sociaux la nuit par rapport au jour, peur du noir, qu'il est difficile de dissiper, qui est quand même très ancré aussi dans nos mentalités.
C'est un réel l'atavisme, la peur du noir. Mais ce qu'il faut bien intégrer, je pense, c'est que ces peurs, elles sont aussi en partie nécessaires. Donc connaître la peur de l'obscurité, c'est individuer ce que l'on est par rapport à ce que va être mon voisin, ma voisine, dans ma réaction à l'obscurité. Donc c'est nécessaire de connaître cette obscurité naturelle, de se faire son folklore de la peur quand on est enfant dans la chambre sans lumière. C'est un véritable processus de construction individuelle. Reste que ces peurs de la nuit, cette peur du loup, elle persiste parfois chez l'adulte, et c'est effectivement l'enjeu sécuritaire a été souvent mis en avant par les élus locaux pour maintenir de l'éclairage artificiel. Je cite une étude dans mon livre qui est intéressante, qui a été menée à Helsinki, sur un panel de femmes à Helsinki. Helsinki, en été, la nuit n'est pas obscure. Et pourtant, la nuit en été persiste chez les femmes la peur de la nuit. La peur de sortir la nuit. Donc ça n'est pas l'obscurité qui est à l'origine de cette peur de sortir la nuit. Voilà. Elle démontre comme ça l'argument de plus de lumière égale plus de sécurité, plus d'obscurité égale moins de sécurité.
Mais vous le dites, c'est quand même ce qui préside au choix de beaucoup de municipalités aujourd'hui encore, et même au niveau national. Beaucoup répondent donc que cette idée de lumière est associée en tout cas à celle de la sécurité. Est-ce que c'est une idée reçue? On va juste écouter le point de vue à ce sujet d'Agnès Beauvais-Pavy, qui est l'auteur de Lumière sur la ville, une histoire de l'éclairage urbain.
Ce dont on s'est aperçu, d'abord il y a des chercheurs qui l'ont dit, les temporalités de la délinquance ne sont pas du tout liées à la présence de lumière ou à son absence. Elles ne sont pas liées à la nuit ou au jour. Et alors moi j'habite Saint-Denis, comme je vous le racontais, une rue très tranquille, très familiale, mais qui se trouve à l'entrée du parc. Et l'entrée du parc était un coin qui avait été choisi par des petits dealers pour faire leur trafic. Et nous avons une panne d'électricité qui a duré 3 semaines. Au bout de 2 jours, il n'y avait plus de dealer. Il n'y avait plus de dealer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de clients. Parce que si vous n'éclairez pas l'espace, vous le fermez à la déambulation. Il n'y a que les gens du quartier qui osent s'aventurer dans ces rues sombres.
Voilà, vous parliez de la peur du loup, mais il y a aussi la peur du bandit. Et il est prouvé que la lumière, la nuit, ne réduit pas, ne fait pas baisser le niveau de la délinquance dans les villes, entre autres.
Non.
C'est une question à laquelle nous nous sommes appelés à répondre tout le temps, parce que c'est une question légitime. Et d'ailleurs, l'éclairage est quand même fait pour assurer les déplacements, la sécurité. Donc, il faut le faire. En revanche, ce qu'on constate, c'est que ça a été principalement conçus dans une logique de l'offre et non pas dans une logique d'analyse des besoins réels. Donc nous, nous préconisons très souvent, quand on incite les élus à réduire la durée d'éclairement la nuit, à pratiquer une expérimentation et de la pratiquer avec les services de police et de gendarmerie. Et partout où nous avons pratiqué ainsi, avec ces services, ce sont eux qui annoncent des chiffres, qui confirment qu'il n'y a pas d'augmentation de délits, voire exactement comme cela vient d'être raconté, une diminution des incivilités parce qu'il y a moins de tapage nocturne, moins de rassemblements, etc. Donc en fait, il y a bien la question d'un sentiment d'insécurité qui n'est pas lié qu'à l'éclairage, mais à la par exemple, à la solitude dans l'espace public, et à la question de la sécurité. Et finalement, ce sont deux choses assez différentes. En revanche, il faut prendre du temps pour expliquer, pour démontrer. Il n'y a rien de mieux que de démontrer par l'exemple que ça marche. Et d'ailleurs, j'ajoute que 12 000 communes pratiquent en France l'extinction une partie de la nuit sans aucun problème.
Pendant quelques heures de la nuit, en fait.
Oui. Ouais.
Il y a des régions, des territoires comme ça en France qui s'illustrent particulièrement en matière d'économie de lumière.
Oui.
Oui, il y a des territoires qui même aujourd'hui vont chercher des labels pour la qualité de leur ciel étoilé ou pour leurs pratiques vertueuses. On citera le label Ville et Village étoilé, mais là je laisserai Anne-Marie le présenter bien plus précisément que moi. Et puis à une échelle plus large et internationale, un label Réserve internationale de ciel étoilé ou Parc international de ciel étoilé qui est donné par une association nord-américaine et puis qui vise à valoriser un projet de territoire, c'est-à-dire des territoires entiers où les différents acteurs, les élus, les syndicats d'énergie, les populations, les associations se coordonnent pour mettre en protection le ciel étoilé et rouvrir aux visiteurs de ces espaces l'expérience d'observation du ciel étoilé.
On l'entendait tout à l'heure avec l'exemple du Parc National des Cévennes en ouverture de l'émission. Vous vouliez peut-être revenir, pardon Samuel Chalea, sur la question du lien entre sécurité et lumière.
Oui, je crois qu'il faut vraiment prendre garde, et j'irai dans le même sens qu'Anne-Marie, hein, il faut vraiment prendre garde de ne pas renvoyer ses peurs à l'irrationalité complète, de ne pas les renvoyer aux seuls individus, de ne pas psychologiser ces problèmes. Voilà, il y a une dimension sociale et politique de ces dimensions de peur. Et puis, effectivement, l'attention aux besoins de lumière, c'est une chose, mais l'attention aux besoins d'obscurité, c'est une autre chose qu'il faut porter.
Mais on en revient, mais c'est vrai que c'est passionnant quand vous remontez le fil de l'histoire de l'éclairage urbain et de ses fonctions. Il y a l'éclairage sécuritaire, l'éclairage de la ville automobile, l'éclairage aussi qui vise à séduire. Et là, on pense à Lyon, bien sûr, quand chaque année, la ville se transforme en ville lumière, hein, et attire le visiteur à travers aussi cette luminosité-là. C'était quoi l'histoire de l'éclairage de la ville automobile? Comment ça avait été pensé par rapport à la voiture?
Ah bah, si vous voulez, c'est l'éclairage, ce qu'on appelle dans l'urbanisme la période fonctionnaliste. Donc l'éclairage fonctionnaliste, c'est-à-dire on disait la forme suit la fonction dans la fabrique de la ville, et puis c'est la période de développement massif de l'automobile. Dans les années 50-60, c'est la période de périurbanisation, d'étalement urbain, donc une ville, un trafic routier, qui se massifie durant la nuit, une ville qui est considérée comme juste un système de circulation, et on installe de la lumière en masse et de façon très très uniformisé, standardisé, pour permettre une toujours plus rapide circulation de la voiture dans la ville.
Observer, s'organiser, atterrir, avec nous l'auteur de Sauver la nuit, Samuel Chalea, un ouvrage qui paraît aux éditions Premier Parallèle, et Anne-Marie Ducroux, actuellement directrice de l'Association nationale pour la protection du ciel et l'environnement nocturne, toujours membre du Conseil économique, social et environnemental.
Toujours.
Où vous portez la bonne parole juste du ciel et des étoiles.
Sur les enjeux environnementaux en général, et je suis engagée en ce moment dans la Convention des citoyens tirés au sort pour le climat.
Ah, vous allez nous en parler dans quelques secondes. France Culture, il est 13h20.
France Culture. La grande table, Olivia Jesbert.
Pas prévu par Luc.
Comment lutter contre la pollution lumineuse, c'est la troisième partie aussi de votre réflexion. Savoir comment aujourd'hui s'organiser et agir, mettre en œuvre des moyens qui nous permettront de sortir de ce tout lumineux qui préexiste et prévaut jusqu'ici dans nos pratiques. On évoquait ces territoires, ces régions qui s'illustrent en matière d'économie d'énergie. Au niveau national, est-ce qu'une réflexion a été ouverte largement aujourd'hui, Anne-Marie Ducroux?
Très largement, oui, parce qu'on a de nombreuses communes qui s'engagent, et d'ailleurs qui s'engagent aussi à nos côtés. On a des communes qui signent des chartes d'engagement volontaire. Nous labellisons des communes qui sont dans une démarche de progrès, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas exemplaires en tant que telles, puisqu'en fait, il faut du temps pour changer aussi la conception, les usages et le parc physique des éclairages. Ce label Ville et Village étoilé est assez original. Il récompense des communes qui progressent. Et on peut labelliser ainsi des communes de 1 à 5 étoiles. Et cette année, nous labelliserons aussi des territoires de Ville et Village étoilé pour encourager les dynamiques collectives que l'on constate déjà, puisqu'il y a un véritable effet contagion. Quand une commune est labellisée, en fait, on constate que toutes les communes environnantes commencent à s'intéresser à ses pratiques et à ses résultats, parce qu'il y a de véritables résultats, et veulent s'engager dans la même voie. Les communes, villes et villages étoilés par exemple, 574 sont labellisées aujourd'hui, économisent par exemple 6 millions d'euros, parce qu'elles ont une durée d'éclairage qui est réduite, ou une puissance d'éclairage qui est réduite. Donc vous voyez, on a des véritables résultats pratique, concret, à l'échelle d'une commune ou d'un territoire.
Alors c'est l'un de vos confrères, membre de l'association aussi, Alain Mourleva, qui pointait lui, certes l'action et les bonnes pratiques au niveau local, mais l'inertie au niveau national, on l'écoute.
C'est encore compliqué, oui, elles savent certaines choses, mais elles sont aujourd'hui complètement pilotées par des professionnels de l'éclairage public. Et ces professionnels, bien sûr, ils ont un aspect mercantile, c'est normal, ils veulent vendre leur matériel, leur système, et ils sollicitent beaucoup les maires et tout ça pour installer le dernier cri. Et c'est là qu'il faut intervenir, et c'est là qu'il faut leur dire attention, oui, il y a de belles choses, mais ça va avoir un impact. Si vous mettez tel type de lampadaire, ça ne sera pas du tout la même chose que si vous en mettez un autre beaucoup plus respectueux et qui ne va pas polluer, qui ne va pas diffuser de la lumière n'importe où.
Voilà, il y a encore des résistances importantes.
D'abord, il y a beaucoup d'ignorance et de méconnaissance, et d'autre part, il y a des intérêts contradictoires, ça c'est clair. Mais je prends cet exemple, quand nous préconisons depuis des années une mesure simple de bon sens qui ne coûte quasiment rien, qui rapporte immédiatement, qui est la réduction de la durée d'éclairement. Pendant des années, cette mesure a été combattue au motif qu'elle ne serait pas pertinente, voire dangereuse, parce que cette mesure ne nécessite pas d'investissement et d'achat de matériel nouveau. Donc vous voyez, quand on préconise de commencer d'abord par ça, commencer par la conception et commencer par les usages avant d'acquérir des nouveaux matériels, de les remplacer et d'investir sur fonds publics, forcément, ça contrarie des intérêts qui, eux, veulent vendre des matériels et des équipements.
Oui, vous parlez, Samuel Chaléa, d'une véritable saga législative sur ces questions-là.
Oui, la construction ces 10 dernières années d'un véritable pacte législatif, elle ne s'est pas faite sans heurts, effectivement. Anne-Marie l'a bien dit, il y a des intérêts qui se tirent la langue. Hein. Les intérêts des éclairagistes et des professionnels de l'éclairage ne sont pas de déséclairer ou d'installer de l'obscurité. Ils sont installés du matériel d'éclairage. Alors, c'est intéressant parce que du coup, il peut y avoir une forme de solutionnisme technique à cette pollution lumineuse en disant installer du nouveau matériel avec des détecteurs de présence qui vont nous permettre, ou de la gestion centralisée qui va nous permettre d'éclairer très précisément à tel endroit, à tel moment, etc. Mais il peut aussi y avoir une réflexion sur les besoins, les usages de et dans l'espace nocturne. Donc ça, c'est porté de plus en plus par les élus. Et puis une réflexion sur la notion de décroissance, de diminuer le nombre de points lumineux installés et d'éviter ainsi d'utiliser ce qu'on a fait en termes d'économie d'énergie en installant des LED, par exemple, d'utiliser cet argent pour installer de nouveaux points lumineux. On ne règle pas le problème. On continue à faire une prolifération de points lumineux dans l'espace.
Pour y réfléchir, il y a des modèles étrangers à partir desquels on peut évaluer ce que serait la juste mesure à partir desquels on pourrait s'inspirer. Il y en a qui sont meilleurs que nous sur ces questions-là.
La France est bien placée. Hein.
Oui, franchement, la France, on a une situation assez paradoxale parce qu'on a des acteurs du type ANPCN qui sont assez originaux et finalement, nous, on ne trouve pas vraiment nos équivalents à l'étranger qui ont cette approche globale et qui ont une action à la fois nationale et locale. On a le corpus institutionnel dont je vous ai parlé, qu'on a constitué de toutes pièces et qui n'existait pas auparavant. Donc, il suffirait finalement de pas... Et on a fait toute cette pédagogie de terrain pendant plus de 20 ans. Donc, il suffirait de pas grand-chose pour que la France soit vraiment un des leaders du sujet. Ce qui nous manque, c'est vraiment une volonté politique avec une action publique structurée. Parce que la réglementation ne suffit pas à être une action publique. Nous demandons un plan d'action sur une nuisance lumineuse depuis des années. Par exemple, en fixant un objectif de ne plus augmenter la quantité de lumière émise, puis de la diminuer par palier, comme on le fait exactement dans les politiques de l'énergie et du climat. Tout le monde a entendu parler du facteur 2, 3, 4, etc. pour le climat. Donc c'est des choses qu'on sait pratiquer dans l'action publique, mais qu'on ne pratique pas ou qu'on n'a pas voulu exprimer dans l'action sur la pollution lumineuse. Donc nous, c'est notre demande. Et si cette action qui permettrait là aussi d'avoir une approche plus globale était sur la table, ça nous permettrait de suivre à la fois les avancées vers l'objectif et les véritables résultats et de réajuster. On aurait donc tout un dispositif qui permettrait d'avancer. Et la dernière chose qui nous manque vraiment très importante, c'est qu'en fait, l'État et pour une grande part de collectivités ne font pas le travail dont elles sont chargées, puisqu'elles ont la responsabilité des contrôles. Et nous, nous le savons, puisque nous avons fait des bilans de terrain de l'application de ces contrôles, qu'il n'y a pas de plan d'action pour vérifier la conformité à la réglementation. Donc non seulement la réglementation est très difficile à obtenir, elle est très difficile à obtenir de manière pertinente, ce qui est un autre point. Et d'autre part, elle n'est pas contrôlée. Donc nous avons fait 3 bilans de terrain montrant que finalement, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait avoir une position de leader, mais s'il y avait le signal politique, par la volonté et par le contrôle, on basculerait probablement dans une qualité de nuit bien meilleure en France.
Voilà ce que vous dites également, Samuel Chalea, avec cette idée que on a tout l'arsenal législatif, les textes, ils sont aujourd'hui existants, mais que leur ancrage dans la réalité des territoires est encore compliqué et loin d'être effectif sur l'ensemble du territoire français.
Hein. Oui, et j'emprunte là dans mon ouvrage la métaphore utilisée par Bruno Latour de l'atterrissage.
Exactement.
Voilà, il faut atterrir. C'est pas parce qu'on.
Mais vous dites qu'il faut atterrir de toutes les manières. C'est-à-dire qu'il suffira pas d'un éventail de réponses législatives ou techniques, comme vous l'évoquiez tout à l'heure. Il faudra aussi atterrir presque philosophiquement et esthétiquement sur ces questions-là.
Et là, des outils émergent, des outils pour l'action publique émergent, notamment la notion de paysage nocturne qui est inscrite dans le Code de l'environnement depuis 2016, et puis des nouvelles formes de modèles spatiaux pour penser la protection de la biodiversité nocturne. On a parlé tout à l'heure des réserves internationales de ciel étoilé. Ça, ces réserves internationales de ciel étoilé, ça fait des poches, des réservoirs d'obscurité, des réservoirs de biodiversité nocturne. Mais ces réserves de ciel étoilé et puis ces communes, villes et villages étoilés, il faut les connecter entre elles. Donc on peut faire émerger l'idée d'un réseau écologique sombre avec un outil de transcription dans l'action publique aujourd'hui qui commence à émerger, cette notion de trame noire, pour extraire la protection de l'obscurité des seuls espaces dédiés, pour l'emmener, pour innerver l'ensemble du territoire de cette protection de l'obscurité dans une dimension moins anthropocentrée que parfois les réserves de ciel étoilé, qui sont aussi conçues comme des outils de marketing territoriaux, de valorisation marchande du ciel étoilé, de développement d'un nouveau segment touristique. Voilà. Donc le réseau écologique sombre peut servir à avoir une vision moins anthropocentrée, plus écocentrée en direction de la protection de la biodiversité.
Et pour conclure, est-ce que vous avez tous les deux trouvé une réponse à la question posée par Bruno Latour, c'est-à-dire où atterrir, Anne-Marie Ducroux?
Vous savez, atterrir, c'est agir. Hein. Moi, je constate ça. Quand on agit, on a des résultats. Et il faut passer du temps, de l'énergie, s'investir énormément. Nous le faisons de manière entièrement bénévole, donc au service de l'intérêt général. Et c'est ce qui nous a permis de gagner tous ces points d'action et ces points de corpus institutionnel dont je parlais tout à l'heure.
Bien sûr qu'atterrir, c'est agir. Et du coup, l'atterrissage, c'est pas à nous de dire comment il faut le faire et où il faut le faire. C'est à tout un chacun d'atterrir, de faire atterrir cette problématique chez lui et autour de chez lui, et puis de solliciter ses élus, ses représentants de quartier, etc., etc., pour sensibiliser sur cette problématique.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Samuel Chalea, Sauver la nuit, comment l'obscurité disparaît, ce que sa disparition fait aux vivants et comment la reconquérir. Votre essai ouvrage vient de paraître aux éditions Premier Parallèle. Merci à vous, Anne-Marie Ducroux. Je rappelle qu'on est donc à la veille de cette 11e édition du Jour de la Nuit qui vise à sensibiliser partout en France à la pollution lumineuse, à l'appel notamment d'associations comme Agir pour l'environnement. C'est un réseau d'associations. Donc demain, un peu partout en France, des opérations, des actions qui seront menées à cet effet-là. Un grand merci aussi à toute l'équipe de la Grande Table pour cette semaine, pour cette préparation et programmation.